VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h, temps universel, bonjour à tous. Les autorités algériennes ont interdit mardi l'université d'été d'une association citoyenne en pointe dans le mouvement inédit de contestation dont l'Algérie est le théâtre depuis le 22 février, a annoncé celle-ci. Le rassemblement Action Jeunesse rage. Les autorités n'ont pas motivé cette décision. Les autorités algériennes ont également interdit mardi une réunion de partis d'opposition prévue aujourd'hui même. Le procès en appel de 24 hommes poursuivis après la décapitation de deux jeunes touristes scandinaves au nom du groupe État islamique s'ouvre aujourd'hui au Maroc, 6 semaines après la condamnation à mort des 3 accusés ayant avoué avoir participé au crime. Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Uland, une Norvégienne de 28 ans, avaient été sauvagement tuées fin 2018 alors qu'elles bivouaquaient au pied du mont Toubkal, le plus haut sommet d'Afrique du Nord, dans le Haut Atlas, à 80 km de la capitale touristique du Maroc, Marrakech. Au Tchad, plus de 300 personnes ont été condamnées à des peines allant de 10 à 20 ans d'emprisonnement pour terrorisme. Parmi elles, plus de 240 rebelles de l'UFR, l'Union des Forces de résistance, et 97 membres de Boko Haram. Abdourahmane Dia.
Le procès devant la Cour criminelle spéciale, ouvert il y a une semaine, a reconnu coupable de terrorisme et complicité de terrorisme 243 membres de l'UFR, a indiqué le ministre tchadien de la Justice, Djimet Arabi. 24 mineurs ont été relaxés. La justice a aussi condamné à la perpétuité par contumace une dizaine de responsables se trouvant en dehors du Tchad, dont leur chef et neveu du président Déby, Timan Erdimi. Ils ont été reconnus coupables de terrorisme et d'enrôlement d'enfants. Début février, le groupe armé était entré sur le territoire à partir de la Libye. À la demande de N'Djamena, la France avait procédé à 3 reprises à des frappes d'avions Mirage 2000 contre la colonne qui voulait renverser le président tchadien. Toujours selon le ministre tchadien de la Justice, dans le cadre de ce même procès, 97 membres du groupe Boko Haram ont écopé des mêmes peines allant de 10 à 20 ans de prison.
Le Soudan se prépare aujourd'hui à l'annonce de la composition du nouveau gouvernement appelé à redresser une économie exsangue et à mettre fin au conflit interne après des mois d'une contestation inédite qui a fait tomber le président Omar el-Béchir. Investi le 21 août, le premier ministre Abdallah Hamdok doit nommer les membres de son cabinet parmi les noms proposés par les forces pour la liberté, le changement, fer de lance du mouvement de contestation. Le gouvernement doit être composé au maximum de 20 membres choisis par M. Hamdok, à l'exception des ministres de l'Intérieur et de la Défense, qui seront nommés par les militaires siégeant au Conseil souverain. La première réunion gouvernement-conseil est prévue le 1er septembre. L'ex-ministre de la Santé en RDC, Oli Oulunga, a été entendu mardi par la justice dans une enquête sur l'utilisation de fonds publics dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a tué près de 2000 personnes en un an en République démocratique du Congo. Nommé en décembre 2016, M. Ilunga a démissionné le 22 juillet. Il s'estimait désavoué par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui lui avait retiré la conduite de la riposte contre Ebola.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Guinée, la justice a levé hier le contrôle judiciaire de 2 journalistes au lendemain d'une manifestation des confrères pour dénoncer le harcèlement des médias privés. Lionel Gaïma.
Souleymane Diallo, administrateur du groupe de presse Le Lynx, et Boubacar Diallo, directeur de la radio du même groupe, avaient été inculpés de diffamation et placés sous contrôle judiciaire. Il devait se présenter tous les jours devant un juge de Conakry. La justice a levé le contrôle judiciaire qui pesait sur mes clients, a annoncé leur avocat Salifou Beavogui, en précisant que la procédure judiciaire se poursuivait. Je salue cette mesure qui permet à nos collègues de vaquer librement en leurs occupations, a réagi Sanou Karfala Sissé, président de l'Union des radios et des télévisions libres de Guinée. Néanmoins, les radios privées vont quand même diffuser le 2 septembre une émission commune pour dénoncer le harcèlement des pouvoirs publics contre la presse privée. Des dizaines de journalistes ont manifesté lundi devant le siège de la Haute Autorité de la Communication à Conakry pour protester contre la mise sous contrôle judiciaire de nos deux confrères et dénoncer les entraves à la liberté de la presse en Guinée.
Le premier président de la Gambie indépendante, Daouda Diawara, renversé en 1994 lors du putsch mené par Yahya Jammeh, est décédé hier à l'âge de 95 ans. L'actuel chef de l'État gambien, Adama Barrow, a déploré une grande perte pour le pays, en particulier l'humanité en général. Les drapeaux seront donc mis en berne, ont indiqué le gouvernement et la présidence. Les funérailles d'État de Daouda Diawara vont se dérouler demain jeudi à l'Assemblée nationale. À l'étranger, l'Italie vit aujourd'hui une journée décisive, soit le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate parviennent à s'unir au sein d'un nouveau gouvernement, soit le président va annoncer la tenue d'élections. Après des pourparlers nocturnes, des suspensions, des prises de bec, le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate, force de gauche, ont prévu de se revoir ce mercredi pour négocier un programme commun et la répartition des postes ministériels. Cela fait 3 semaines que la péninsule est plongée dans une crise inédite, avec d'abord le dynamitage par Matteo Salvini, le chef de la Ligue extrême droite, le 8 août de la précédente coalition formée avec les 5 étoiles. Pendant la dernière décennie ici aux États-Unis, le nombre d'étudiants étrangers inscrits dans les collèges et universités américaines a régulièrement augmenté, mais à cause des frais de scolarité très élevés aux États-Unis et des problèmes de visa et autres, les étudiants étrangers se tournent maintenant de plus en plus vers le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Europe et la Chine. Dans ces pays, les études sont moins chères et plus pratiques. Un reportage signé Sarah Jmajim. Récit Lionel Gaïma.
Les coûts sont très élevés pour étudier dans les universités américaines. Fatah Au, vice-président de Campus Life à American University à Washington DC.
Ce n'est un secret pour personne. Comparé à d'autres pays, le coût de l'enseignement supérieur aux États-Unis est beaucoup plus élevé.
Les frais de scolarité ne sont pas le seul facteur dissuasif. Une étude de l'Institut international pour l'éducation met aussi en évidence la perception de la criminalité aux États-Unis et la rhétorique sur l'immigration. Bakhtiar Romadoni Arsral, étudiant indonésien.
En fait, c'est devenu ma principale préoccupation. Je suis d'origine indonésienne, asiatique et musulmane. Mon apparence est différente. Les gens voient que je viens d'un autre pays. C'est une situation difficile pour moi, même si au début je pensais que ce n'était pas un problème, croyant que l'Amérique était ouverte.
D'autres pays comme le Canada sont conçus comme plus accueillants et cherchent à attirer des étudiants de Chine, de l'Inde, des Philippines, du Vietnam et du Pakistan en leur accordant des visas qui sont traités en 3 semaines. Kirsten Hillman, ambassadrice adjointe du Canada aux États-Unis.
D'après nos statistiques, nous avons constaté que ces pays sont les plus intéressés à envoyer des étudiants au Canada.
Et ceux qui ont étudié au Canada trouvent que leur immigration a porté des fruits. Masroor Khan, ancien étudiant de l'Université de Manitoba au Canada.
Après mon diplôme de premier cycle, j'ai obtenu un permis de travail de 3 ans, également appelé permis de travail du 3e cycle, et j'ai postulé pour un emploi. J'ai été recruté dans un cabinet comptable. J'ai travaillé pendant 1 an à plein temps, ce qui m'a permis de faire une demande de carte de résident permanent.
La Nouvelle-Zélande aussi, avec 130 000 étudiants étrangers, renforce sa stratégie de recrutement. Julian Ashby.
La grande majorité, environ 50%, vient de Chine et d'Inde. Nous avons aussi un grand intérêt pour les étudiants, les meilleurs venant d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est.
Malgré cette concurrence, certains experts estiment que les États-Unis peuvent redevenir le premier choix pour les étudiants étrangers. Marie-Catherine Chase, directrice de la communication pour les programmes d'échange d'étudiants.
L'un des aspects fantastiques du paysage mondial de l'enseignement supérieur est que tout pays peut devenir une destination de choix suivant des facteurs appropriés. Ainsi, les États-Unis, par exemple, pourraient redevenir une destination de choix et dominer pendant un certain temps.
Elle ajoute que des mesures comme le renforcement de la convivialité par le biais de cours d'anglais, le développement de réseaux et les organisations étudiantines aident aussi à attirer plus d'étudiants étrangers.
Voilà, la marine birmane va participer la semaine prochaine à des manœuvres navales communes entre les États-Unis et les pays de l'ASEAN, a annoncé aujourd'hui un porte-parole de l'armée birmane, dont plusieurs dirigeants sont pourtant visés par des sanctions américaines pour le nettoyage ethnique des Rohingyas. L'inclusion de la Birmanie dans les manœuvres inédites entre les États-Unis et les pays de l'ASEAN ne viole pas ces sanctions, mais de plus en plus de voix s'élèvent pour demander davantage de mesures de rétorsion contre l'armée birmane. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain journal dans 50 minutes. Vous retrouverez Marie-Francisque. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.